France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Qu'avaient en commun des auteurs aussi différents les uns des autres que Beckett, Sarraute, Simon, Robbe-Grillet, Pinget, Ollier, Butor, pour se retrouver ensemble, rangés sous une même bannière, à la fin des années 50 ? D'avoir rompu avec la veine romanesque héritée de Balzac et Zola, d'être de leur temps, de susciter le rejet ou l'indifférence de bon nombre de critiques et d'éditeurs, tout cela sans doute, et aussi d'avoir trouvé abri sous le toit de la même maison. Réunis aux éditions de Minuit de Jérôme Lindon, à l'instigation de Robbe-Grillet qui en était le conseiller littéraire, ces écrivains et quelques autres y furent les représentants du nouveau roman, pour la plupart d'ailleurs, à leur corps défendant. Comment ce qui n'était ni une école, ni un dogme, à peine un mouvement, bouscula-t-il alors le monde littéraire ? Comment des auteurs longtemps ignorés trouvèrent-ils à exister dans cette fragile maison d'édition, au point, pour deux d'entre eux, d'y être distingués du prix Nobel ? Telles étaient les questions auxquelles répondait Alain Robbe-Grillet dans le 13e des 25 épisodes de sa série « Préface à une vie d'écrivain » sur France Culture en 2003, en commençant par celle-ci. Comment le nouveau roman est-il né ?
Préface à une vie d'écrivain par Anna Robbe-Grillet. 13e épisode pour une brève histoire du nouveau roman.
J'ai terminé la dernière fois sur ce que je considère comme une rupture essentielle du récit en France, qui est le passage de Balzac à Flaubert. Bon, on sent bien, je pense, à m'écouter, que je lis Flaubert avec plus de plaisir. Mais j'ai beaucoup d'amis qui lisent Balzac avec un très grand plaisir. Roland Barthes, par exemple, lisait Balzac avec un très... Il lisait même Zola avec un grand plaisir. Alors, ce sont des choses, moi, que je comprends très bien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui le lisent autrement qu'on le lisait à l'époque, et qui veulent y trouver. Il y a même des gens qui m'ont essayé de me démontrer que l'inventeur de la discontinuité, c'était Balzac. Pourquoi pas ? Mais c'est leur lecture, ça. C'est sûrement pas la mienne, et c'est pas celle-là qu'on lisait à l'époque. C'est pas du tout par hasard que l'œuvre de Balzac pouvait paraître en feuilleton dans le Figaro de l'époque. C'était vraiment le récit tranquille qui ne dérangeait personne, même si les situations pouvaient déranger, le récit, lui, ne dérangeait pas. Et si je prends volontiers Balzac comme exemple de ce qu'était la littérature autrefois, c'est parce que c'est une œuvre monumentale et cohérente dont on peut facilement évacuer les récits bizarres, ce qui m'intéresse moi, et que c'est... On me demande pourquoi j'en veux à Balzac. Je ne veux pas du tout à Balzac. Je trouve que c'est un bon ennemi. Il est franc et massif dans sa robe de chambre en bronze. Et surtout, alors, on me l'a jeté à la figure. C'est-à-dire que quand mes premiers livres sont parus, c'est vraiment le modèle balzacien qu'on me reprochait de ne pas suivre, comme si c'était le roman pour l'éternité. Je crois que je devrais la raconter comment est né justement le nouveau roman. Bon, le nouveau roman n'est pas une école littéraire, hein. C'est un ensemble d'écrivains, et moi j'y mets volontiers des auteurs qu'on n'a pas l'habitude d'y mettre, Raymond Queneau, par exemple. C'est volontiers ceux qui ont été sur la liste officielle, c'est-à-dire ce qu'on voit sur la photographie, où il y a Samuel Beckett et Nathalie Sarraute comme ancêtres. Et puis, Binger, Claude Simon, Claude Ollier, moi-même, etc., devant la porte des éditions de Minuit. Et moi, j'y mets en tout cas toujours Marguerite Duras. Elle appartient pour moi à ce mouvement, pour deux raisons, parce que d'abord, je l'ai édité aux éditions de Minuit, et le nouveau roman, c'est quand même moi qui l'ai choisi. Par conséquent, elle appartient tout à fait à cette mouvance. Si elle ne figure pas en général, ou si elle ne figure pas souvent en tout cas dans la liste, c'est parce qu'elle a été une de celles qui détestait le plus cette idée d'un groupe. J'ai donc publié aux éditions de Minuit un certain nombre d'écrivains qui m'intéressaient et qui n'étaient pas normaux du point de vue de la normalité. Mes livres avaient été refusés par plusieurs éditeurs parisiens, en particulier par Gaston Gallimard, avec une lettre charmante pour me dire que c'était très bien. C'était pas les gommes, c'était un régicide, et puis les gommes ensuite. Mais à propos d'un régicide, il me disait que c'était peut-être très bien, mais que ça ne correspondait absolument pas à quelque public que ce soit. Et que par conséquent, il n'avait, lui, éditeur, aucune raison de l'imprimer. C'était une façon de concevoir l'édition qui n'était pas la seule possible. Car, quelques années avant, un éditeur allemand, le vieux Fischer, fondateur de Fischer Verlag, avait répondu à un journaliste qui lui demandait « En quoi, alors, monsieur Fischer, consiste votre métier d'éditeur ?» Fischer réfléchit et dit « Eh bien, ça consiste à publier des livres dont le public ne veut pas. » Phrase formidable, c'est-à-dire que la littérature n'est pas un produit comme un autre. On peut fabriquer des pommes de terre selon le goût du public, parce que c'est un produit de consommation. La littérature n'est pas un produit de consommation. Et le véritable éditeur, c'est celui qui va publier des livres qui ne sont pas ceux que le public attend, et même, à la limite, ceux dont il ne veut pas. Et j'ai eu la chance, alors, d'être refusé par Gallimard. Parce que, comme Beckett a eu la chance d'être refusé par Gallimard, Beckett a été en outre refusé par 14 éditeurs parisiens, avec des lettres de refus tout à fait étonnantes, que nous publierons un jour aux éditions de Minuit, sûrement. Parce qu'alors, lui, il n'était pas très acharné, il ne tenait pas absolument à être publié, mais c'est sa compagne, Suzanne Duménil, qui allait d'éditeur en éditeur pour proposer les manuscrits qu'elle avait dans un cabas, car l'œuvre était déjà presque terminée. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on a éditées à ce moment-là étaient écrites depuis longtemps. Il y avait les œuvres qui avaient été écrites en anglais, Murphy, Watt, Mercier et Camier, etc. Et puis alors, les livres écrits en français après, Molloy, Malone meurt, L'innommable, En attendant Godot, tout ça était écrit, hein, et inédit. Et tout d'un coup, Jérôme Lindon, qui venait de prendre possession des éditions de Minuit que Vercors avait laissées en faillite, s'est dit « ben voilà, il est probable que je ne pourrai pas durer longtemps ». C'est-à-dire que la maison n'a que des dettes et je ne suis pas… Il avait 22 ans à l'époque, hein, ou 23 ans. Donc, je n'ai pas assez de poids dans la famille, bien que ce soit des familles qui avaient certains moyens. Je n'ai pas assez de poids pour imposer une littérature qui ne fait que perdre de l'argent. Et il déclare « Eh bien, avant de fermer la maison, je vais publier Beckett ». C'est vraiment une décision digne de Fischer. C'est-à-dire, ça, le public n'en veut pas. Il y a 14 éditeurs qui en témoignent que le public n'en veut pas. Et il publie Molloy, qui a un certain succès. Mais un certain succès, à l'époque, c'était qu'on en vendait 1000 ou 1500. Hein. C'est pas ça qui renflouait la maison. Et la maison est restée en dépôt de bilan permanent, de mois en mois. Quand Jérôme Lindon a publié Les Gommes en 55, Molloy avait dû être... Non, en 53, Les Gommes, en 53. Molloy avait dû être publié en 50 ou 51, quelque chose comme ça. Les Gommes en 53, il n'avait même pas assez d'argent pour le faire imprimer. Il a fallu qu'il convainque le Club français du livre d'en faire une coédition. Le Club français publiait des livres club, c'est-à-dire reprenait des livres déjà publiés. Et Georges Lambrix, qui était l'adjoint de Jérôme à l'époque, était assez ami avec un type qui s'appelait Grégory et qui dirigeait les éditions du Club français du livre, avec le soutien de l'hôpital à qui ça appartenait. D'ailleurs, c'était une bonne équipe. Et il convainc l'hôpital de publier des inédits, c'est-à-dire d'être coéditeur de livres qui n'avaient pas encore fait leurs preuves auprès du public. Il faut dire que le beau-frère de Grégory, qui était Francis Blanche, avait décidé qu'on allait faire un film avec les Gommes et qu'il jouerait lui-même le rôle de Ballas, ce qui était vraiment une idée merveilleuse. Je pense que les auditeurs savent encore qui est Francis Blanche. ça aurait été assez étonnant. Ça ne s'est pas fait, malheureusement, mais néanmoins, les Gommes est sorti donc dans le Club français du livre et les éditions de Minuit ont photocopié l'édition du club pour en faire l'édition de librairie. Ce qui fait que le livre est composé en égyptienne, alors que tous les livres de Minuit sont en romaine ou enfin un caractère beaucoup plus orthodoxe, quoi. Alors, les Gommes paraît dans un silence consterné de la critique, hein, c'est-à-dire, oui, l'époque où on disait « Ah ben, c'est pas un vrai écrivain, c'est un ingénieur, quoi. » Et puis ensuite, alors, 2 ans après, Le Voyeur, qui, grâce au prix des critiques et au soutien de Georges Bataille, de Maurice Blanchot, de Jean Paulhan, alors, fait un scandale. Un scandale parce que c'est un livre absolument impossible pour la critique traditionnelle. C'est un livre qui sort complètement de la norme du récit réaliste à la Balzac. Et simplement, à la suite d'une dissension dans le jury, les modernistes l'emportent sur les autres. Et les autres, c'était tous les grands critiques des journaux. C'était Henriot, Canters, Camp, etc., Henri Clouard, qui alors se déchaîne dans la presse. C'est-à-dire que Georges Bataille, lui, il votait au prix, mais il n'avait pas de chronique dans le Figaro, quoi, ni dans Le Monde. Et donc, ce déchaînement dans la presse, c'est très bon, très bon. Que pouvait souhaiter de mieux un jeune écrivain qui n'est pas orthodoxe? Pas le silence qui a accueilli les Gommes, non, mais le scandale du Voyeur. Henriot a écrit dans Le Monde que ce livre ne relevait pas des prix littéraires, mais des asiles d'aliénés ou de la correctionnelle. C'est vraiment très bien, n'est-ce pas ? Il m'accusait ouvertement d'être certainement un fou et probablement un assassin. C'est quand même merveilleux. Que pouvais-je si souhaiter de mieux ? Et quelque chose de plus beau encore pour moi se passe à ce moment-là. Bon, on en vend 10 000, hein, ce qui est énorme pour moi à l'époque. Mais ce qui est plus beau encore, c'est que Jérôme Lindon décide que je vais devenir son bras droit. C'est-à-dire, non pas directeur littéraire, Jérôme ne supportait pas que quelqu'un soit directeur, c'était lui le directeur, mais conseiller littéraire. Et donc, et seulement à mon deuxième livre publié, je deviens conseiller littéraire des éditions de Minuit et grand ami de Jérôme Lindon, qui en somme, j'ai 10 ans de plus que lui à peu près, me laisse carte blanche pour orienter la maison. Je remplace alors Georges Lambrix, qui lui avait des vues très dilettantes et non marquée, quoi. Il aimait un peu tout, comme ça. Donc, c'était une maison qui n'avait pas d'orientation. Il y avait eu une orientation à la fondation de la maison, parce que c'était une maison politique qui publiait des livres interdits par le gouvernement de Vichy, et donc des livres dits de la résistance. Mais là, il n'y avait plus d'orientation politique, il y avait seulement des livres que Paulhan nous recommandait, parce qu'ils étaient... Parce que le vieux Gallimard n'en voulait pas. Et alors, non seulement donc, Jérôme me publie et continue à me publier et ne se fâche pas du tout quand la jalousie ne se vend pas, il considère que c'est ça son métier. Déjà sous l'occupation, les éditions de Minuit devaient publier ce qu'on n'avait pas le droit de publier, là pour des raisons politiques. Ensuite, pour des mêmes raisons politiques ou plutôt d'autres, la guerre en Algérie, c'est Jérôme qui publie alors dans la collection des témoignages, des récits de ce qui se passait vraiment en Algérie, c'est-à-dire l'histoire de Alègue, l'histoire de Audin, etc. Et là, de la même façon, ben voilà, il décide qu'il va publier les livres dont Gallimard ne veut pas. Pas tous, probablement. Il les choisit quand même, et moi aussi. Et je décide alors d'attirer aux éditions de Minuit des livres qui sont publiés ailleurs par des écrivains plus âgés que moi, qui ont déjà publié plusieurs livres, mais dont personne ne parle, parce qu'ils ne correspondent pas à la norme narrative admise par les grands critiques des journaux et magazines. Et donc, c'est comme ça que je réédite « Tropisme » de Nathalie Sarraute. Jérôme demande à Gallimard s'il tient à rééditer « Tropisme », qui avait été édité chez Gallimard, mais qui était épuisé. Non, il n'était pas du tout. Et donc, on réédite « Tropisme ». Et « Pingé », qui était édité chez Robert Laffont, il avait publié un livre remarquable qui s'appelait « Mahu ou le matériau » en 1950, livre prémonitoire des théories du nouveau roman. Pingé n'aimait pas du tout l'esprit théoricien, mais « Mahu » est un livre théorique, mais théorique dans le texte, pas théorique hors du texte. Et donc, nous rééditons « Mahu », puis ensuite toute l'œuvre de Pingé. Claude Simon était chez Kalman Lévy, et Kalman Lévy lui faisait la guerre parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il racontait, évidemment. Et alors, il essayait de rajouter des trucs pour pas trop déplaire à son éditeur. Et c'est comme ça qu'on lui a dit « Mais non, ne rajoutez rien, publiez ce que vous avez envie de publier. » Et ça, on le prend, nous. Et donc... Donc se trouve rassemblée à Minuit Marguerite Duras, alors avec Moderato Cantabile, qui marque un tournant dans sa carrière littéraire. Elle devient un écrivain moins public. Après, elle est redevenue encore super publique, mais elle avait un public déjà de romancière romanesque avec Un barrage contre le Pacifique et Le marin de Gibraltar. Mais elle avait envie de faire autre chose. Et alors, tous ces écrivains-là avaient envie de faire une œuvre qu'ils avaient en tête. Ils avaient en eux d'étranges choses qui réclamaient leurs mains. Mais ils étaient dans une situation éditoriale qui faisait qu'il fallait bien ne pas trop déplaire à son éditeur, parce que sans ça, on cessait de vous publier. Et le résultat, c'est qu'on les publiait, mais que personne n'en parlait. Absolument personne. Tandis que, une fois qu'ils ont été rassemblés aux éditions de Minuit, il y avait eu donc le scandale du Voyeur en 55, qui avait attiré tout à fait les yeux sur ce groupe. Et puis alors le groupe s'était amplifié et la modification de Michel Butor à le prix Renaudot, à des grands prix de fin d'année, etc. Donc tout d'un coup, la critique académique prend peur. C'est-à-dire, on continue à ne pas comprendre ce que nous écrivons, mais on se met à en parler. Et les journaux deviennent remplis de grands articles sur nous, pour expliquer, par exemple, que j'étais un fou ou un assassin, et pour les autres, c'était pareil. C'est-à-dire, en gros, que nous étions illisibles. Mais on en parlait. On en parlait, et ça, ça a été la grande réussite de mon roman, ça a été ma chance que Jérôme Lindon et moi, on ait pu publier dans la même maison, sous la même couverture, un certain nombre de livres tout à fait hétérodoxes, mais qui avaient l'air quand même de constituer un groupe, ne serait-ce que négativement, puisque on pouvait toujours faire remarquer que c'était contraire à telle ou telle loi du récit. En plus, alors, Nathalie Sarraute réunit en volume les articles qui constituent l'ère du soupçon, et moi-même, à la demande de François Herval, qui dirigeait la collection Idées chez Gallimard, je publie chez Gallimard, ce qui était drôle, ce livre qui est devenu Pour un nouveau roman et qui a été publié en même temps aux éditions de Minuit, mais l'édition originale est dans la collection Idées chez Gallimard. Et tout ça, ça fait du bruit. Il y a deux théoriciens, enfin théoriciens, ce n'est pas des théories de la littérature, ce sont des aperçus théoriques. Et en réalité, ce sont des réponses à la critique. Des réponses. On avait même imaginé, à l'époque, dans le goût des encyclopédistes, de faire un dictionnaire. Il y a eu une entreprise, et on se réunissait chez Jérôme Lindon, et on avait décidé de faire un dictionnaire des termes employés par la critique au pouvoir pour condamner nos œuvres. Et nous disions, ces termes ont l'air innocents, ils ne sont pas innocents. Ils décrivent, ils dénoncent une idéologie. Et évidemment, ces reproches qu'on nous fait, en réalité, ils sont tout à fait fondés, parce que c'est contre ça que luttent ces gens qui ont le pouvoir et qui veulent le conserver. Et le dictionnaire n'a pas été un succès parce que on avait mis trop de gens. Il y a trop de gens qui y participaient. Il y avait des gens semi-révolutionnaires, Bernard Pingot, Pouillon, Marthe Robert, qui étaient souvent pas aussi modernistes que le noyau. Et donc, le dictionnaire, on y a renoncé très vite. Roland Barthes, qui adorait ça, a prononcé l'oraison funèbre. En réalité, il avait plus ou moins saboté l'entreprise, parce qu'il avait fait remarquer que nous n'étions pas un groupe cohérent et nous y tenions. Par conséquent, il fallait que chaque mot soit défini par l'ensemble des gens qui participaient au dictionnaire. Évidemment, ou bien alors qu'il soit signé. Mais tout ça, c'était vraiment... Non, on sentait bien que le groupe ne prenait pas. Et d'ailleurs, le groupe élargi. Mais le groupe restreint même n'a jamais vraiment constitué un mouvement littéraire accepté par les auteurs. Il est normal qu'un écrivain se sente unique. Et d'ailleurs, jamais il n'a été question pour moi, ni pour Jérôme, de faire régner une loi du nouveau roman. Pas parce que chaque écrivain, au contraire, était encouragé à aller plus loin dans sa propre folie, en quelque sorte. Et c'est étonnant, comme les œuvres de Claude Simon, du jour au lendemain, se sont épanouies, alors, dans un style d'une grandeur et d'une beauté. Et chose le plus drôle, les deux seuls prix Nobel que la France ait eus depuis Sartre, ça a été deux écrivains du nouveau roman, Samuel Beckett et Claude Simon. Donc quand même, c'est une réussite, une success story, comme aimait Françoise Giroud. Ce groupe, alors, mal aimé des autres, qui nous haïssait, il paraît que nous avons empêché les écrivains d'écrire pendant des décennies. J'ai dit, écoutez, si vraiment ça les empêche d'écrire, c'est qu'ils n'ont pas une très grande conviction de ce qu'ils doivent écrire. Et étant donné ce qu'ils écrivaient, je suis ravi que ça les empêche de continuer. Bon, c'était... Mais parmi les gens qui en faisaient partie, ils n'admettaient que du bout des lèvres. Pingé, qui était un des plus amicaux, un des plus chaleureux envers ses amis, détestait l'idée qu'il appartenait à un groupe. Claude Simon lui-même l'admettait par moment et par moment pas. Butor, très vite, est parti chez Gallimard. Marguerite Duras, alors, était la plus violente, alors, parce que Marguerite était non seulement le plus grand écrivain français, mais le seul. Et je disais à Marguerite, mais bien sûr, mais tu as raison, mais moi aussi. Claude Simon aussi, il est le plus grand et le seul. Et ça, elle ne voulait pas l'admettre. Or, pourtant, à elle aussi, ça a marqué son écriture, puisque le style Duras s'est épanoui à minuit et pas chez les éditeurs précédents. Quant à Nathalie Sarraute, alors qui est quelqu'un de sûrement beaucoup plus intelligent conceptuellement que Duras ou que d'autres, elle avait une espèce de retenue. D'abord, elle était notre ancêtre, donc elle avait dit tout ça avant nous, et par-dessus le marché, ce qu'elle écrivait n'avait aucun rapport avec ce que nous écrivions. En un sens, c'était vrai, puisqu'elle était beaucoup plus marquée par la psychologie, qui n'était pas la psychologie des profondeurs de l'analyse psychologique, mais qui était quand même une étude volontaire de la psyché et des fonctionnements de la psyché dans le système qu'elle appelait des sous-conversations. Et Nathalie, alors, par moment, considérait que je m'étais emparé de son œuvre pour en profiter, que d'autre part, elle ne faisait absolument pas partie de quelque groupe que ce soit, mais à d'autres moments, par exemple au colloque qu'il y avait eu à New York Université, 25 ans après la photographie dont j'ai parlé tout à l'heure devant la porte des éditions de Minuit, devant la porte de la maison française de New York Université, se retrouvaient à peu près les mêmes écrivains 25 ans après. Et dans ce colloque, c'était très, très intéressant et très, très chaleureux. Elle a dit quand même qu'elle était persuadée depuis toujours que son œuvre était vouée au silence, qu'elle ne parlait d'ailleurs que du silence et qu'il était normal qu'elle soit vouée au silence. Et que, alors elle commençait à l'époque à être au contraire très populaire, qu'elle était sortie de ce silence, disait-elle en me désignant, grâce à mon énergie, à mon optimisme. Et il y a quelque chose de vrai. Il y avait chez Sarraute et chez beaucoup de ses écrivains une espèce de pessimisme fondamental. Ce que nous écrivons est trop bien, donc on ne nous comprend pas. Tandis que j'avais au contraire cette espèce de conviction que, un, nous avions raison, et que, deux, ça se saurait un jour ou l'autre. Et donc j'ai fait tout un travail de voyageurs de commerce du nouveau roman. J'ai fait des séries de conférences sur Pinget, sur Simon aux États-Unis, des cours même dans des universités, des vrais cours d'un semestre, et puis des cours plus brefs, enfin des périodes moins étendues en Italie, en Allemagne, et même Duras, Sarraute et moi, on a fait des conférences en trio. On se présentait dans les universités américaines, attirant un grand public, anglaise pardon, dans les universités anglaises, on se présentait comme des célébrités locales, mais un petit peu comme des animaux de cirque. Hein. On venait nous voir comme on allait au zoo à l'époque, un peu. Et on parlait en trio. C'est-à-dire, évidemment, c'était surtout moi qui parlais, parce que je parle plus facilement. Marguerite parlait bien, mais seulement à une table de café où il n'y avait pas plus de 2-3 personnes. Quant à Nathalie, elle pensait que c'était trop indicible. Après, alors, elle a été une des conférencières remarquables, et d'autant plus remarquable, elle, alors, qu'elle pouvait parler français ou anglais avec exactement la même facilité.
Préface à une vie d'écrivain par Alain Robbe-Grillet, Réalisation Bruno Sourcy.
Cette émission a été diffusée la première fois le 13 août 2003 sur France Culture.